Mélanie Gilmand est la réalisatrice de ce documentaire autoproduit, Ce qui nous lie, un film qui nous emmène au Danemark, en Finlande, mais aussi à Mont-Saint-Barœul, près de chez nous, pour interroger l'un des premiers lieux de socialisation, l'école. Mélanie Gilmand, avec nous par téléphone, elle commence par nous parler de l'idée de base de son film.
Le point de départ, c'était vraiment un questionnement personnel, en fait, sur le bonheur, même si le projet a beaucoup évolué. Mais le point de départ, c'était ça, c'était un questionnement sur le bonheur. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Peut-être, qu'est-ce qui me rendait heureuse aussi? Ou qu'est-ce qui fait que les gens ne soient pas heureux? C'était un peu ça, et j'ai commencé par des lectures, en fait, d'articles, de livres, et puis j'ai suivi un cours en ligne de l'université de Berkeley qui s'appelait La science du bonheur. Et voilà, donc j'ai continué à rechercher dans cette direction-là, et puis au cours de mes recherches, de mes lectures, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était l'importance de trouver du sens dans sa vie, mais aussi l'importance des relations sociales. Et en parallèle de ça, je suis tombée sur le rapport mondial sur le bonheur, qui est édité par l'ONU. Et je trouvais ça surprenant qu'il y ait, au-delà des rayons de développement personnel et tout ce qu'il y a avec le bonheur, qui est aussi une recherche à l'échelle, on va dire, plus collective, à l'échelle d'un pays, d'indicateurs de bien-être, en fait, et notamment au-delà du PIB. Et en voyant la place de la France, je me suis dit ok, donc la France est 6e puissance économique mondiale, et pourtant dans d'autres indicateurs de qualité de vie, c'est pas aussi évident. Donc est-ce que je pourrais faire le lien avec ce que j'avais lu, c'est-à-dire que peut-être que les relations sociales, elles sont déterminantes, et du coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait soit problématique chez nous, ou alors qui fonctionnerait plutôt bien du côté relationnel dans les pays qui sont au sommet de ces classements.
Et du coup, cette recherche sur le lien social et les relations, ça t'a amené sur la question de l'enfance et de l'éducation, c'est ça ?
Oui, parce que je me suis dit, au début, je ne voulais pas faire uniquement un film autour de l'enfance. J'avais envie de regarder là où on interagit, c'est-à-dire quand on est jeune à l'école, mais ensuite dans le monde de l'entreprise, et aussi le rapport aux personnes qui nous gouvernent, on va dire tous les lieux où on se relie et qui sont culturellement marqués, c'est-à-dire qui sont pas juste dans nos vies personnelles. Et du coup, je me disais que sans doute, il y avait peut-être des similitudes entre un des premiers lieux où on apprend à socialiser, qui est l'école, et peut-être ensuite la manière dont on interagit dans le monde de l'entreprise. Et en fait, il s'avère que oui, quand même, évidemment, que la culture de relation à l'école au Danemark et dans le monde de l'entreprise, il est très différent de la manière dont nous, on interagit dans ces mêmes lieux. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs différents qui peuvent expliquer la façon dont on apprend à se relier, et l'histoire, etc., la politique et la culture. Et du coup, finalement, comme c'était très gros, même si on a filmé dans plein de lieux différents dans ces pays-là, et notamment même dans des entreprises, j'ai décidé de me focaliser uniquement sur l'enfance, sur l'école, et justement ces premiers lieux où on apprend à socialiser en dehors de nos familles, en fait.
Alors justement, tu t'es rendu au Danemark, en Finlande aussi, c'est ce qu'on peut voir dans le documentaire. Qu'est-ce que tu as constaté là-bas de radicalement différent dans le rapport aux enfants et notamment à l'école ?
Alors, la première chose, c'est d'abord le rapport au groupe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une importance qui est donnée au groupe et à la coopération, tout petit, en fait, déjà. Donc c'est une conscience du nous que je trouve qui est assez surprenante, et qu'on retrouve après dans leur vie d'adulte aussi, en fait, vraiment. Donc il y a vraiment cette idée de coopération. Et puis la deuxième chose, c'est on pousse aussi l'enfant à être autonome. C'est-à-dire que du coup, il y a vraiment cet équilibre entre il faut qu'individuellement, il devienne autonome et qu'il se débrouille en tant que je, et en tant que nous aussi, enfin, qui est à la fois le groupe et l'individu qui est une place. Et la dernière chose, je dirais, c'est vraiment la posture de l'adulte en relation avec ses enfants. Et je pense que c'est lié justement à cette idée d'autonomie, c'est-à-dire que l'enfant, c'est un interlocuteur et un individu à part entière qui est valable et qui a sa place comme n'importe quel autre membre, et qu'on traite en tout cas dans la discussion et dans les relations, à égalité. Ça ne veut pas dire que l'adulte n'a pas évidemment plus de compétences et plus de savoir, et du coup une certaine autorité qui serait naturelle, évidemment, je pense qu'il ne peut pas y avoir égalité partout, mais en tout cas, dans la manière de traiter l'enfant, c'est-à-dire, je te considère comme un individu qui a autant de place et d'importance qu'un adulte. Et ça, j'ai trouvé ça très surprenant et chouette, en fait. En tout cas, des choses desquelles on pourrait s'inspirer.
Quand même, le Danemark, la Finlande, modèle sur certains points en termes d'éducation, mais aussi, on ne peut pas dire que ça soit le paradis sur Terre non plus, le Danemark et la Finlande. Il y a quand même des problèmes. Bon, par exemple, pour en prendre un en particulier, le Danemark, je pense, a un des plus hauts taux de suicide chez les jeunes.
Évidemment que le film n'a pas vocation à dire que les pays nordiques sont parfaits, parce que c'est pas le cas. Je le pense pas, donc c'est pour ça que je le dis pas. Et je pense que d'un point de vue relationnel, il y a des choses dont il faut s'inspirer, et il y a plein de choses pour moi qui fonctionnent pas dans ces pays-là. Pour le Danemark, tu cites cet exemple, je vais y revenir, mais il y en a d'autres aussi, et notamment. Parfois, ce qui s'est passé avec l'immigration et le fait que, je pense, ils avaient pour but de confisquer une partie des biens qu'avaient les personnes qui migraient chez eux, que je trouve scandaleux, évidemment. Les personnes qui sont au chômage, elles sont, on peut le dire, elles sont vraiment fliquées parce que le but, c'est de retourner au travail, etc. Donc, il y a des choses qui, pour moi, sont dérangeantes, évidemment. Et là, pour le suicide, ça reste un sujet qui est très flou et mystérieux pour moi, parce que évidemment je me suis penchée sur cette question quand je me suis intéressée aux pays nordiques, parce que je trouvais ça très bizarre, très étrange de dire que c'est un pays où il y a une qualité de vie qui est très élevée dans plein de domaines différents et qui est et notamment chez les enfants aussi à plein de niveaux différents, et pourtant il y a des taux de suicide qui sont élevés. Alors, dans les derniers chiffres que j'avais regardés, qui datent de quelques années, finalement, en fait, la France n'était pas si éloignée de ces taux de suicide-là, bizarrement. Et ensuite, je me posais la question d'où ça venait pour le Danemark. Il y a des théories qui sont différentes, à la fois, oui, ce serait le manque de lumière, des mois pendant lesquels il fait nuit tout le temps. Mais j'avais posé la question à Mike Viking, qui travaillait pour l'Institut de recherche du bonheur à Copenhague. Et je lui ai posé cette question du suicide et il disait que c'était évidemment aussi un sujet surprenant, et que pour lui, ça venait du fait que quand dans un pays, les choses roulent plutôt bien, alors du coup, on a plutôt tendance à culpabiliser et à se dire que si ça va pas, c'est sans doute pas la faute collective, c'est-à-dire parce que la qualité de vie, elle est plutôt bonne. Donc le problème doit sûrement venir de nous. Et donc du coup, ça rejette la faute sur l'individu. Et du coup, c'est très compliqué d'être malheureux, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'au Danemark et en Finlande, il n'y a pas des gens qui sont malheureux. Enfin, évidemment que tout le monde passe par ces états-là de toute façon. Mais du coup, c'est compliqué d'être malheureux dans un pays qui va bien. Et que ça peut pousser justement au suicide. Mais j'ai pas de vérité à ce sujet-là, pour le coup. I had a place on the Smoky Mountain Range, only place I could be free. Oh, I got a loving heart. Oh, where do I start?
Suite de notre entretien par téléphone avec Mélanie Gillemand, réalisatrice du documentaire autoproduit Ce qui nous lie. Alors, le documentaire hein, « Ce qui nous lie », ce CEUX, se déroule aussi en France, hein, par chez nous, hein, à Mont-Saint-Barœul, dans une école bien connue, qui est située dans un quartier populaire, une école qui utilise la pédagogie freinée depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'a intéressé là, dans cette école en particulier ?
Je suis partie vers la pédagogie freinée et tout d'abord parce que la pédagogie freinée se pratique dans des écoles publiques. Et c'était important pour moi d'aller dans une école publique et de pas montrer que ce qui bouge en France et les belles initiatives se font dans le privé. Parce que du coup, ça paraît pas du tout accessible et on a l'impression que c'est réservé à une petite élite. Il y a des gens qui font, même en dehors de l'école freinée évidemment, des instituts qui, grâce à leur liberté pédagogique, font plein de super choses et dans le public. Donc c'est important de le dire. En fait, la pédagogie freinée, elle tourne autour de la... C'est une pédagogie de la coopération. Donc c'est pour ça que ça m'a évidemment plu, et parce que ça faisait écho avec ce que je voyais aussi dans les pays nordiques, en fait. Où vraiment, Puis ce travail du groupe, de réflexion collective, d'entraide aussi, beaucoup d'entraide. Et on apprend à penser et à réfléchir ensemble. Les gens construisent du savoir collectivement, les élèves. Et donc ça, c'était très chouette à observer. Et c'est ça qui m'a plu. La deuxième chose, la posture d'adulte, elle est aussi différente. On part de l'enfant pour construire du savoir. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on le considère comme valable, du coup, pour être constructeur de savoir et de connaissances. Et cette posture-là, ça sort de la posture du maître tout sachant et qui, avec un savoir qui serait descendant et vertical, qui pour moi représente quand même une tradition française de la verticalité, des relations qu'on retrouve dans l'école, mais aussi dans le monde du travail, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à cette école en particulier, parce qu'elle, en plus, elle n'est pas très loin de chez moi, elle est pionnière de la pédagogie freinée dans notre pays. C'est un peu pour toutes ces raisons-là.
Alors pour illustrer ton propos, je te propose de parler d'une séance, une séquence en particulier du film, justement qui présente une séance de classe. La question qui est posée par le prof, c'est est-ce que la classe est grande ou pas, hein, et comment on peut faire pour mesurer la classe? Alors peut-être un prof classique aurait simplement expliqué comment on mesure la superficie d'un espace. Il part de ce que les enfants pensent. Alors, il y en a qui préfèrent compter les carreaux sur le sol, il y en a qui préfèrent compter les dalles sur le plafond, il y en a qui mesurent effectivement les choses, mais le prof les accompagne dans leurs différentes tentatives de comprendre et d'essayer de mesurer la pièce, c'est ça?
Exactement. Bah, comme tu dis, déjà la posture de l'adulte, elle est une posture d'accompagnement. Qui est du coup super intéressante parce que c'est pas moi je suis porteur de savoir et que je transmets uniquement aux élèves, mais je vais vous laisser en tant que chercheur de savoir expérimenter parce que vous en êtes capable. Donc dans cette posture-là, il y a aussi une confiance dans l'enfant et dans sa capacité d'expérimenter qui est très cool, et ce que Freinet faisait, c'est-à-dire il sortait beaucoup de la classe pour aller expérimenter dans le réel ce dont il parlait. Et là c'est sûr que c'est une séquence assez drôle parce que on les voit vraiment tâtonner et se tromper et hésiter, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est-à-dire quand personne n'apprend en une fois en faisant tout bien directement, c'est aussi en tâtonnant, et c'est ce qu'ils font. Donc en effet en mesurant, en pensant que le mètre, il fait 100 mètres, parce qu'il est marqué 100 sur la règle, et que les dalles, ça paraît assez approximatif. Et je pense que ce que l'INSIT montre aussi là, c'est que c'est pas tant le résultat final, même si évidemment qu'ensuite il est là pour corriger et apporter d'autres réponses, c'est plus le chemin vers l'apprentissage du savoir et la posture que eux vont gagner dans la confiance en eux et le travail de groupe, que le résultat in fine. C'est vraiment toute cette partie où ils apprennent ensemble et ils tâtonnent, qui est finalement plus importante que la vérité, quoi.
Alors, la critique est souvent faite en France quand on écoute trop les enfants, quand les profs ou les parents écoutent leurs enfants, c'est de fabriquer des enfants rois. Comment tu vois cet argument, toi?
Ce qui est rigolo, c'est pour moi, la vision de l'enfant roi, ce serait quelqu'un pour qui on ferait tout, alors que là, c'est l'inverse, c'est que on les laisse expérimenter, on ne fait pas pour eux, on les laisse expérimenter et on les laisse être qui sont. Je pense qu'il y a, j'avais eu cette discussion avec la directrice de l'école, justement, qui me disait il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme, en fait. On peut être dans l'autorité, mais une autorité de compétence, et une autorité qui serait bienveillante et juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles dans cette école, hein, vraiment. Et je pense qu'ils le savent, mais ils participent aussi aux constructions des règles, en fait. Et justement, en construisant ces règles, et c'est ce qu'elle dit dans le film, on comprend bien mieux le vivre ensemble et où s'arrête, où sont les limites et où est ma liberté à moi, quand on participe à l'élaboration de ces règles-là. Donc, pour moi, je ne vois pas ça comme l'enfant roi que de que de l'intégrer aux réflexions qui le concernent, en fait.
Mélanie Gillemant, merci. Je rappelle que le documentaire « Ceux qui nous lient » tourne en ce moment. C'est un documentaire qui est autoproduit. Hein. Tu cherches des endroits pour le diffuser, que ce soit des petits lieux, des petits cinémas, mais aussi des lieux où on réfléchit sur l'école, à l'intérieur des écoles, dans les centres sociaux, etc.
Oui, totalement. Alors, c'est sûr que les personnes que j'aimerais toucher principalement sont les professionnels de l'éducation, mais aussi, et du coup, que ce soit un site, les AESH, que ce soit les éducateurs spécialisés, justement, ou les animateurs, animatrices dans les centres sociaux, mais aussi les familles. Les prochaines dates, là, il y a le 24 février au Bus Magique à Lille. Il y aura ensuite aussi le 16 avril au Cinéma L'Univers. Après, en juillet, au Bourdin. Entre deux, évidemment, il y aura d'autres dates qui ne sont pas posées pour l'instant. Mais évidemment, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je peux donner l'adresse email, c'est contact@et.org ou alors aller sur la page Facebook du film, ceux qui nous lient, c'est EUX. Et on sera ravis de venir pour une projection avec, pourquoi pas, une discussion après la projection, justement.
Mélanie Gillemant, réalisatrice du documentaire « Ceux qui nous lient », un entretien par téléphone réalisé hier matin. Mélanie Gillemant anime aussi des cafés philo pour des élèves d'école primaire. Oh,